Le débat du jour. Loïc Bussière.
Les chiffres de la honte, le titre est signé L'Équipe, le quotidien sportif qui, avant même la sortie de route du PSG en Ligue des Champions, c'était, rappelez-vous, au mois de mars dernier, L'Équipe donc qui revenait sur le parcours peu reluisant des clubs français dans l'Europe du football. Voilà le nombre de titres glanés par les formations tricolores. C'est peu, c'est même bien maigre, insignifiant au regard des Real Madrid, Barça et autres Bayern Munich. Et à quelques dizaines de minutes du coup d'envoi d'OM Atlético Madrid, eh bien ce chiffre ne plaide pas pour une victoire marseillaise. Alors quoi ? La marche européenne est-elle trop haute pour les clubs français ? Que leur manque-t-il pour se hisser au niveau des ténors continentaux ? On en parle ce soir avec nos invités. Nos invités que l'on accueille sur cette délicieuse musique que l'on entendra, n'en pas douter, dans les gradins du Parc OL dans 2 heures à peine. Bonsoir Mathieu Rollinger.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à SoFoot et SoFoot.com. Buenas tardes, Juan José Dorado.
Buenas tardes.
Vous êtes donc espagnol, journaliste et correspondant à Paris pour plusieurs médias espagnols. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. On entend ce refrain des supporters marseillais, auquel les esprits chagrins répondront peut-être par un qui ne gagne pas est bien français. Juan José Dorado, je me tourne vers vous. Que pensez-vous de cette assertion ?
En fait, je crois que vous avez raison. Tout simplement, c'est vrai que les chiffres et les statistiques montrent que la France, en matière de football, n'arrive pas à gagner. Vous avez fait référence effectivement en ce final, et je ne compte pas celle d'aujourd'hui, et uniquement 2 victoires. Et par rapport aux autres grands championnats européens, c'est vrai que la France est encore très 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 loin.
Mathieu Rollinger.
Oui,
c'est mal parti, on va le dire.
Ouais, là, on est vraiment sur un cas particulier où on va retrouver un Olympique de Marseille qui va disputer sa première finale depuis 2004, qui avait perdu contre Valence. Donc déjà une défaite face aux Espagnols. Entre-temps, voilà, c'est il y a plus rien derrière, quoi.
À la ferveur des supporters marseillais que l'on vient d'entendre, elle ne sera à vos yeux pas suffisante.
Bah en tout cas, c'est symptomatique des choses parce que voilà, en France, on a une finale enfin avec un club français et voilà, ça prend toute l'ampleur, d'autant plus quand c'est Marseille qui est voilà, un club très populaire. Et voilà, je pense pas qu'il y ait le même engouement en Espagne puisque voilà, il y a notamment ça devient une habitude. Donc si on commence à s'exalter comme ça à chaque fois.
C'est quand même un cas particulier aujourd'hui, parce qu'en fait, vous avez aujourd'hui l'Atlético de Madrid, mais dans 10 jours, vous avez le Real Madrid. Donc en Espagne, c'est vrai que vous avez tout à fait raison, peut-être l'engouement n'est pas le même qu'à Marseille. D'ailleurs, vous avez les 11 000 billets qui étaient à disposition de l'Atlético de Madrid n'ont pas été tous vendus. Donc à peu près 9 500 billets ont été vendus. Donc pour montrer qu'effectivement, l'engouement n'est peut-être pas le même au niveau national, mais les supporters de l'Atlético de Madrid sont là et ils tiennent beaucoup, pour beaucoup de raisons, à cette Europa League et à cette finale aujourd'hui.
Alors, engouement modéré, puisqu'on rappelle, la Ligue Europa, c'est la deuxième division, on peut le dire, de la Coupe d'Europe, loin derrière la Champions League, la Ligue des Champions.
Ah oui, de toute façon, aujourd'hui, les clubs français, je pense qu'ils sont incapables de pouvoir dire sincèrement qu'ils peuvent arriver en finale de Ligue des Champions.
Alors au-delà des... Oui, Juan José Dorado, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites engouement modéré parce que c'est l'Europa League, le 12e échelon. C'est pour ça qu'en France, on ne gagne pas. Parce qu'on considère que c'est le 12e échelon. Parce que quand je suis arrivé en France il y a quelques années, j'entendais des entraîneurs, j'entendais des dirigeants se poser la question, est-ce qu'on doit jouer à fond l'Europa League? Ou est-ce qu'on doit jouer la Coupe de France? Ou est-ce qu'on doit, parce qu'on n'a pas l'effectif pour jouer tout en même temps? C'est pour ça qu'on ne gagne pas. En Espagne, on ne se pose pas cette question. Aujourd'hui, vous avez le Betis de Séville qui est loin de l'Europe depuis plusieurs années. Et c'est l'engouement total parce qu'ils vont retrouver l'Europa League. Séville qui est 7e du championnat espagnol, est prête à jouer les phases des qualifications fin juillet, début août pour se retrouver en Europa League. C'est pour ça qu'on a du mal à gagner en France. Parce que l'Europa League, c'est une compétition européenne, peut-être effectivement au 12e échelon, mais il ne faut pas la délaisser comme ça.
Mathieu Rollinger, il y a une condescendance française face à cette compétition.
Je pense que c'est de moins en moins vrai. Depuis quelques saisons, il y a quand même une prise de conscience dans les clubs français que cette compétition peut apporter beaucoup de choses. Saint-Etienne, par exemple, n'avait plus revécu autant d'émotions quand elle a reçu Manchester United, c'était il y a 2 saisons. Lyon a bien vu l'année dernière que Jean-Michel Aulas a bien remarqué que son club pouvait gagner en image via la C3, donc l'Europa League. Donc aujourd'hui, il y a quand même des moyens qui sont... Quand on aborde l'Europa League en tant que club français, aujourd'hui, c'est plus le discours qu'on pouvait entendre il y a une dizaine d'années où on bazardait les matchs, etc. Parce qu'il fallait commencer très tôt dans la saison, au mois de d'août, juillet parfois. Et aujourd'hui, on se rend compte que si on fait l'effort de passer l'automne dans cette compétition, bah, il peut y avoir des belles affiches et des choses à jouer. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Marseille qui, je pense, ne pensait pas arriver là aussi rapidement.
La Ligue Europa, ça a été longtemps une compétition vue du côté français comme une manière de faire souffler ses joueurs.
Bah, c'était un long parcours, en fait. Il fallait aller se déplacer dans des pays, dans l'Est de l'Europe, contre des clubs qui sont pas très connus. Donc, ça demande pas mal c'est une perte d'énergie, etc. En termes d'engouement, c'était pas forcément, un vrai rendez-vous. Mais aujourd'hui, ça le devient parce que, voilà, les clubs progressent aussi et se rendent compte, justement, de l'opportunité que ça peut être, ces trois.
Juan José Dorado, vous dites qu'on se pose pas cette question, côté espagnol, en tout cas.
On ne se la pose pas du tout. Et d'ailleurs,
aller jouer dans des stades mal éclairés, boueux, c'est pas un problème.
Mais on ne se pose pas cette question parce que pour aller vers la Champions League, pour aller vers le top du top, bah, il faut commencer par le bas. Et le bas, c'était à l'époque la C3 et la C2, bah, l'Europa League aujourd'hui. Et les clubs que vous retrouvez aujourd'hui, on nous dit souvent que le Barça et le Real Madrid ont joué, l'ancienne Coupe de l'UEFA, l'ancienne C3. Ils n'allaient pas en Champions League à l'époque et ils allaient jouer en C3. Et c'était le Barça et c'était le Real parce que c'était une façon effectivement de retrouver l'Europe. Aujourd'hui, vous avez l'Atlético de Madrid. Mais pourquoi l'Atlético de Madrid s'est retrouvé en Champions League? Pourquoi il a joué deux finales même s'il les a perdues? Mais parce qu'avant de ça, il a constitué un groupe, il a constitué une équipe qui a gagné à deux reprises l'Europa League. Quand on parlait du côté français, on disait oui, mais le Barça, le Real, l'Espagne, deux championnats. Oui, si vous voulez, sauf qu'en même temps, le Séville gagnait 5 Europa League. Donc, il n'y avait pas deux championnats. L'Europa League, c'est le passage obligé pour tous les clubs qui veulent construire un projet et qui veulent jouer un rôle en Europe. On n'arrive pas comme ça en Champions League. Bah, il faut commencer avant, surtout quand on n'a pas les millions qu'il faut pour acheter tout simplement et tout rapidement des très grands joueurs.
Mathieu Rollinger.
Bah, je pense que justement, l'Espagne a été un modèle pour beaucoup de clubs français comme Lyon et Marseille. Et je pense qu'ils ont vu les exemples de Villarreal, de Séville et de l'Atlético Madrid. Justement, ces équipes qui progressent sur la scène européenne via la Ligue Europa et qui ensuite deviennent performantes en Champions League. Aujourd'hui, en France, on a malheureusement que deux clubs qui sont performants en C1. En Ligue des Champions, c'est le PSG et l'AS Monaco. Derrière, pour sortir des phases de poule, on se rend compte que c'est compliqué. Et ils doivent passer par passer ce cap, franchir cette limite psychologique, on va dire, via cette Ligue Europa. Et donc ce soir, c'est une très bonne occasion.
Je me pose la question, parce que à un moment donné, vous vous rappelez, bien sûr, Lyon, qui a gagné 7 titres de champion de France d'affilée, qu'on retrouvait en quart de finale, et je me suis dit, pourquoi après, on n'a pas retrouvé au niveau de la Liga, la Ligue 1, donc cette efficacité montrée par Lyon qui était déjà en train de montrer la voie. Et pourquoi il n'y a pas eu de la suite derrière? Il a fallu attendre, et vous avez raison, les Qataris et puis le PSG avec les millions pour pouvoir racheter des joueurs. Mais c'est pour ça aujourd'hui que ce qui se passe à Marseille est très intéressant, parce que Marseille, il faut se rappeler tout simplement qu'il y a un nouveau propriétaire depuis 18 mois, un nouveau directeur sportif, un nouveau entraîneur, et quand ils sont arrivés, ils ont dit « on va construire un projet ». Et vous voyez aujourd'hui, ce projet qui date de 18 mois, pas des 4 ans ou 5 ans comme avec le PSG, bah est en train, peut-être pas d'aboutir, mais d'avancer sérieusement. En fait, aujourd'hui, Marseille, petit à petit, est en train de faire ce que le PSG, avec tous ses millions, n'a pas su faire. C'est-à-dire construire un vrai projet avec une équipe dirigeante qui dise « on a le temps ». On va aller petit à petit. C'est un peu effectivement le cas des équipes espagnoles. Vous parliez de Villarreal, qui est un cas très symptomatique du foot espagnol.
Mathieu Rollinger, est-ce que ce projet justement de construction de Marseille, j'allais dire Madrid, comme le décrit Juan José Dorado, il est à mettre en parallèle avec les ambitions de la Ligue professionnelle de football, qui voudrait justement bien, d'ici 3-4 ans, faire partie du top 4 des clubs européens?
Ben, Frédéric Thiriez, en 2007, président de la Ligue de football française, disait en 2007 que l'objectif, c'était justement d'arriver dans le dernier carré de Coupe d'Europe. Et aujourd'hui, Marseille, avec son nouvel investisseur américain, il montre que il se donne les moyens de le faire, en tout cas. Ils ont jamais caché que le modèle à Marseille, c'était des clubs un peu intermédiaires comme Dortmund, comme l'Atlético Madrid, et ils se calquent là-dessus. Et ils l'ont fait assez intelligemment, en fait, avec Franck McCourt. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas... Ça, c'est évident. Ensuite, pour d'autres clubs, ça, je pense qu'il y a... En tout cas, si on, sur la question, les clubs français sont-ils au niveau européen, on peut dire aujourd'hui non, mais ils pourront l'être éventuellement dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, il y a Saint-Etienne, par exemple, qui est aussi en négociation avec un nouvel investisseur américain qui pourra éventuellement apporter des nouvelles possibilités à ce club-là. Nice, aujourd'hui, on voit que Nice, elle progresse. Il y a tous ces clubs qu'on pensait inexistants sur la scène européenne. Ben Nice, cette année, par exemple, ils ont fait leur parcours aussi en Europa League, sans vraiment démériter. Ça s'est arrêté assez tôt. Mais voilà, il y a des clubs intermédiaires en France qui, aujourd'hui, ont leur carte à jouer.
Il n'empêche que ce modèle de la construction européenne à moyen terme, tel que vous la décrivez, elle est difficilement soluble dans les exigences à court terme, façon PSG.
Oui, c'est difficile, mais encore une fois, il faut avoir des investisseurs qui soient capables de voir au-delà des deux premières années. Je pense que aujourd'hui, au moins, c'est le cas de Marseille. Quelque part aussi le cas de Monaco, même si la deuxième année, ils ont fait un peu marche en arrière parce qu'ils ont vendu beaucoup de joueurs, parce qu'ils voyaient que ça coûtait beaucoup très cher. Mais c'est vrai que, je suis d'accord, la France, aujourd'hui, les équipes françaises n'ont peut-être pas le niveau. Mais il faut pas désespérer, mais surtout, il faut insister. Et puis, vous avez cité Nice, je trouve que c'est un très beau exemple. Bien sûr, il y a l'Olympique Lyonnais qui a quand même un passé important en coupe d'Europe puisqu'il y a eu ces victoires face au Real, etc. Mais ces deux clubs avec Marseille peuvent créer justement ce petit groupe qui va tirer des autres clubs. C'est toujours très compliqué, c'est toujours très cher, mais si on commence à penser uniquement en France, qu'à l'argent, forcément, il y aura pas 11, mais 22 finales et toujours 2 victoires à la fin.
Mathieu Rollinger, pour revenir justement sur l'exemple du PSG, on a largement commenté ces investissements très importants, le transfert record de Neymar. Il y a des moyens énormes qui sont mis pour ce club parisien qui affiche très clairement ses ambitions européennes et qui pourtant bute au pied des quarts de finale depuis plusieurs années. Comment vous l'expliquez ?
Si on parle vraiment du cas du PSG, déjà moi je pense que le PSG, il faut le dissocier des autres clubs français. Pour moi, le PSG doit être la locomotive européenne du foot français. Ça, c'est quelque chose qui est indiscutable et doit continuer à vouloir ambitionner d'être demi-finaliste chaque année de Ligue des Champions. Il faut vraiment pas lâcher là-dessus. Parce qu'ils se donnent les moyens de le faire et au final, à force de l'afficher, ben, à un moment donné, il faudra y répondre.
En même temps, si on prend pour exemple le Real Madrid, c'est une locomotive qui roule plus vite, j'ai envie de vous dire, avec une trentaine de titres dans ses wagons.
Bien sûr, mais le Real Madrid, ça fait quand même des années qu'ils sont. Voilà, c'est le Real Madrid.
Ce qui n'est pas du tout le cas du PSG. Et puis le Real, le Barça, Manchester, la Juventus. C'est des clubs, et quand je parle des clubs, c'est des clubs structurés. Là, on en parle depuis plusieurs mois, le PSG, il y a des grosses individualités, mais on ne voit pas des dirigeants qui soient vraiment dirigés le club. Peut-être avec l'arrivée de l'entraîneur allemand, c'est un exemple, hein, puisqu'on sait comment il est arrivé. Et ici, c'est pas l'entraîneur, c'est pas le président qui l'a choisi, c'est le propriétaire depuis le Qatar. Donc, c'est des clubs. Ce qui manque aujourd'hui au PSG, c'est vraiment être un club. Je pense que du côté de Marseille, il y a l'engouement du public. Et ça ne fait pas gagner des matchs, mais pour devenir meilleur, il faut que vous ayez un public. Et ça existe du côté de Marseille. Donc, il faut de l'argent, forcément, mais surtout du travail, et puis créer ces structures que le PSG, aujourd'hui, n'a pas vraiment par rapport aux autres grands clubs, Barcelone, Manchester, Madrid, etc.
Mais surtout que je pense qu'en fait, le PSG ne doit pas vouloir aller à la même vitesse que le Real Madrid. Et déjà, c'est pas possible. Donc, je pense que le PSG, déjà, va beaucoup trop vite depuis que les Qataris sont la direction, et devrait faire les choses dans l'ordre. Voilà, de passer étape par étape pour ensuite pouvoir rivaliser être sur le même pied que le Real Madrid, le FC Barcelone. On parle beaucoup des Espagnols, mais je pense que voilà, c'est vraiment
un cas. Italiens aussi.
C'est vraiment un cas particulier. Aussi. Là, il y a quand même une statistique qui est assez affolante. Ça fait depuis l'année 2000, les Espagnols ont participé, ont 15 victoires en Ligue d'Europe, en Championnat d'Europe, pardon. Et les seules fois qu'ils ont perdu en finale, c'est quand des confrontations directes. Donc l'Espagne est encore dans sur une autre planète. Et donc il faudrait peut-être aussi comparer par rapport à l'Angleterre, à l'Allemagne ou l'Italie. Quand on prend Manchester City, c'est un projet qui est comparable à celui du Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas forcément été beaucoup plus loin pour le moment. Oui. Ils n'ont pas prouvé énormément de choses sur la scène européenne.
C'est pas un manque d'ambition, c'est quoi? C'est un manque de réflexion, de structuration d'un projet?
Il faut structurer le projet. C'est clair qu'en France, on a structuré des projets qui étaient des projets quand même assez intéressants. Je parlais tout à l'heure de Lyon, avec des dirigeants, le président lyonnais qui est là depuis pas mal de temps. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'a pas su profiter des opportunités. Il y avait l'opportunité de Lyon quand il était en compétition européenne. On n'a pas vu émerger d'autres clubs derrière avec les mêmes ambitions. Il y a un manque des moyens, mais je ne pense pas que ça soit le principal problème. Beaucoup des clubs, que ça soit espagnol ou que ça soit italien, la Roma a fait un parcours magnifique et n'est pas du tout comparable avec le Barça, le Real, Chelsea ou Manchester City. Et ils ont fait quand même un parcours incroyable. Donc, en France, on doit se poser beaucoup de questions au niveau des dirigeants sur la possibilité de construire un projet avec des gens qui vont avoir 3, 4, 5 ans pour pouvoir l'aboutir. Quand je suis arrivé, je voyais qui était l'entraîneur des Auxerre et le temps qu'il a passé à Auxerre, ça c'est construire un projet. Quand vous voyez en Angleterre Arsène Wenger qui passe 22 ans dans le même club, là c'est construire des projets. Et ça, aujourd'hui, ça manque en France, effectivement, on veut aller trop vite et on n'a pas les moyens d'aller trop vite. Chelsea a mis quand même 6-7 ans avec tous ses millions pour pouvoir gagner sa première Champions League.
Mathieu Rollinger, on brûle les étapes, on avance?
Après, pour moi, c'est pas une question de moyens. Mmh. C'est vraiment.
Alors, quand on revoit les moyens du PSG, même si c'est un club à part, comme vous le dites, voilà. C'est clairement pas une question de moyens.
Monaco n'est pas sur la paille. Hein. Ils ont quand même les moyens d'avoir une équipe compétitive en Europe. On a, depuis l'Euro 2016, on a quand même des belles structures, des beaux stades. On a, voilà, tout est fait. On a les moyens vraiment d'aller loin en Europe. Donc la question n'est pas forcément sur le projet forcément sportif. Il y a une part de chance aussi. Quand on voit le PSG qui tire deux fois le Barça, le Real. Mmh. Voilà, il y a une part de réussite qui doit changer, mais voilà, ça peut, je sais pas, faut laisser le temps aussi au projet de s'installer, de se mettre en place, et voilà, on a une belle formation en France.
Oui. C'est qui était de garder très les joueurs. Hein. Vous avez perdu beaucoup des joueurs. C'est le cas aujourd'hui.
Qui se vendent dans le club espagnol, par exemple.
Antoine Griezmann.
Mais aujourd'hui, l'Atlético de Madrid a 3 joueurs français, parce qu'il y a Griezmann, Gameiro et Lucas Hernandez qui sont du côté de l'Atlético de Madrid. Et puis vous savez, Marseille qui se retrouve quand même en finale, c'est pas si étonnant que ça, même si on croyait pas du tout en début de saison vu les performances de Marseille. Mais on est allé appeler Andoni Zubizarreta, qui a été longtemps le directeur sportif de Barcelone et qui est quelqu'un qui sait construire un projet. Je l'entendais dire il y a quelques jours que quand il est arrivé, ils ont préparé quand même 700 fiches des joueurs pour les suivre. 700, pas 3, ni 5, ni 150, 700. Et puis, il y a Rudy Garcia qui a fait quand même un très beau travail à Lille d'abord, ce qui lui a permis de partir à Rome, mais on oublie que Rudy Garcia est allé se former aussi avec son titre d'entraîneur du côté de Valence avec Rafael Benitez.
Allez, on parlait de temps il y a quelques instants, le temps justement il nous est compté. Un dernier mot avant de se quitter, un pronostic, Marseille, Madrid, Juan José Lorado.
Ça sera l'Atlético de Madrid, alors ça sera 2-0 pour l'Atlético ce soir, j'espère.
Mathieu Rollinger.
Moi je vais dire que Marseille va pouvoir aller chercher les prolongations après.
C'est ce que l'on verra ce soir à partir de 20h45, OM Atlético Madrid. C'est à suivre justement sur Antenne Afrique d'RFI avec nos envoyés spéciaux Parc OL de Lyon, Christophe Jousset, Eric Mamrut. L'après-match, ça sera avec Annie Gasnier, Radio Foot International en direct de Marseille. Merci à nos deux invités. Merci également à Hélène Avril qui était à la réalisation aujourd'hui, à Florence Ponce pour son aide dans la préparation de ce débat. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité internationale.